courage à toi et puis à très bientôt donc. Hein.
Bah écoute, vraiment, vraiment merci Marco, super sympa. J'ai beaucoup de chance d'être soutenue par les copains comme ça et ça me fait plaisir, c'est bien.
Je t'en prie.
C'est mon moteur.
Je t'en prie. Troisième édition, on y sera. À bientôt, à tout bientôt.
Bah, c'est super, alors à bientôt Marco.
Allez,
gros bisous et bonne journée.
À bientôt, ciao, merci. Devil drink.
Timo Rogers, extrait de cet album Mississippi Blues Tale, Mud and Blood, avec le titre Devil Train Boogie. Merci encore à Val Sejeski pour cette interview à propos du Bagnoles Blues Festival, troisième édition de la nouvelle saison, j'allais dire. Et on poursuit avec J.J. Thames, le grand coup de cœur de ce festival.
Huh?
Thames, extrait de l'album Tell You What I Know, avec le titre Hey You. Elle sera présente le deuxième soir, le 8 août prochain, samedi 8 août, au festival de Bagnoles sur 16.
Saturday night, sounds good to me.
Avant notre invité suivant, il s'agit de Michael Mazalera. On va l'avoir au téléphone tout à l'heure pour nous parler de son tout nouvel album en duo. Vous en saurez plus et davantage tout à l'heure. Je vous rappelle que cette émission numéro 965 ne dure que 2 heures. On est ensemble jusqu'à 15 heures. Donc, on aura notre invité. On aura un retour, bien sûr, au disque de la semaine. Et je n'oublie pas vos dédicaces. On va essayer de tout caler ça dans les 53 minutes qui nous restent. Voici Tad Robinson, toujours Day in Tonight avec Mellow in Love.
When I look back down that road I came, I'm amazed at how I got to where I am. Like it's always been in my misty dreams. Whoa, I'm a satisfied man. She brings out the love in me. Play forever, one, two, it's mellow, oh, mellow in love. It's where I belong. Oh yeah, yeah, yeah. The funny little habits always make me smile. Anything she does is cool with me. I never wanna leave, no, no, even for a while. Oh, this is where I wanna be. Yeah, she brings out the love in me. Ooh, play by ear, won't you see? Touch. She knows what to say right on cue. When she whispers in my ear, it ain't never too much. Whoa, it keeps me in the mood. Yeah, mellow.
In Love, Tad Robinson, l'album s'appelle Day in Tonight, je vous le conseille. On poursuit avec un artiste qui va se produire très bientôt, le week-end prochain, sur Caen, puisque vous savez qu'il y a le America Normandy Festival au Parc Expo de Caen, les 24, 25 et 26 juillet prochain, avec plein d'artistes, country, rock'n'roll, blues, avec Vintage, avec Ian Matisse, Ray Scott, Neil Black, Westbound, The Indication, Arpador, Atomic Circus Orchestra, il y a également Cold Can, Blue Tears Trio, Green River, Gumbo Gasoline, Miss Jack, Hawaiian Pistoleros, Hillbilly Rockers, Honky Tonk Angels, Hot Rod 56, Michael Onstar et Laurette Canyon. On écoute Neil Black. En concert le 25 juillet à 23h sur la scène intérieure. À Caen. Jesus and Johnny Walker.
Jesus, or Johnny Walker makes a better man. When you're out on the street, you can't go home. You got so high that you're feeling low. Let Jesus or Johnny Walker take your hand.
Fera le America Normandy Festival. Ce sera samedi prochain, le 25 août, avec Gumbo Gasoline, avec Hot Rod 56, avec Vintage, avec Westbourne, avec plein d'autres. Neil Black, qu'on vient d'entendre. On poursuit avec. On poursuit avec Weeping Widows, ce groupe, ce duo featuring Michael Mazzalera et Fred et Joris Ragel, pardon, respectivement chanteur harmoniciste, gabardiste, percussionniste et guitariste, dobroïste, lapstyliste et percussionniste. Voilà, ils sont que deux hein, pour faire tout ça. L'album s'appelle Epitaph. On va avoir Michael au téléphone dans un instant, bah juste après ce titre qui s'appelle Nina. Weeping Widows. Voilà, ça s'appelle Nina, c'est signé Weeping Widows, c'est un duo composé de Michael et Joris. Ils sont au téléphone tous les deux, salut Michael.
Salut Marco.
Tu vas bien?
Oui, très bien, j'ai Joris à côté de moi aussi, qui est là.
Joris, tu vas bien?
Ouais, ça va et toi?
La magie du téléphone. Tout à l'heure, on avait en direct de Cahors, on avait Fred Delforge. En direct de Bagnols-sur-Cèze, on avait Valérie Sijelski. Et là, Michael et Joris, vous êtes où?
Là, on est du côté dans le sud de Toulouse, à 60 km,
ouais.
Km de Toulouse, à côté dans un village qui s'appelle La Trappe, en fait, c'est dans mon domicile. Et on est là pendant 2-3 jours, parce qu'on joue dans la région, là, pendant 2-3 jours, du coup, on est basé là ce week-end, voilà.
Michael, qui n'est pas tout à fait un inconnu, notamment pour le collectif des Radio Blues, et puis pour la scène blues en général, Manish Boys,
hein. Oui, tout à fait, j'ai eu joué dans les Manish Boys pendant 11 ans.
Ah oui, quand même.
Ouais, pas mal. Et j'ai fait, je crois, 6-7 albums avec eux.
Ouais.
Non, 5 ou 6 plutôt. Et je les ai quittés il y a 2 ans afin de monter cette nouvelle formation avec Joris. Donc un duo, power duo world blues. Et voilà.
On va décliner les différents styles qui émaillent cet album qui s'appelle Epitaph, qui est superbe, qui comprend 13 titres. Mais je voulais laisser la parole également à Joris, parce que Joris, on le connaît un peu moins dans le monde du blues. Je pense qu'il vient peut-être d'autres horizons. Joris, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
C'est juste que je suis jeune.
Ouais, ah ben voilà, c'est peut-être ça aussi.
Donc, oui, parce que moi pour le coup, c'est la première fois que j'ai un projet qui tourne vraiment.
D'accord.
puisque quand Michael m'a contacté, j'étais encore en train de terminer mes études. Puis voilà, ça y est, on y est.
Et donc, quand tu dis jeune, c'est forcément moins de 25 ans, peut-être, je sais pas.
Tout pile,
25 ans. Exactement comme moi, mais tu mets le 2 et le 5 à l'envers aujourd'hui. Tu vois. Eh bien, Michael et Joris, qui font partie de ce duo, qui ont créé ce duo il y a combien ? Il y a 2 ans maintenant, presque ?
Oui, on a créé le groupe il y a 2 ans et on a commencé à jouer il y a 1 an et demi à peu près.
D'accord, et alors ça s'est passé comment la création de ce répertoire ? Parce que j'imagine que vous êtes nourris tous les deux d'influences diverses et variées quand même pour en arriver à un résultat comme Epitaph.
Ben, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand on s'est rencontrés, moi je jouais pas encore de guitare acoustique, je jouais de la guitare électrique.
Comme on l'a entendu dans ce titre-là, d'ailleurs, ouais.
Avec cette idée-là, et puis on a fait un effet en acoustique, et en fait, il y a tout de suite, tous ces styles de musique différents sont apparus, enfin, c'était là, quoi, et puis on a choisi d'essayer d'en exploiter certains. Du coup, ça explique la grande diversité des styles de l'album aussi.
Alors, l'album s'appelle Epitaph, ça correspond à aucun des 13 titres. Pourquoi Epitaph ?
Michael veut pas répondre, mais je lui laisse la parole quand même.
Vas-y, Michael, mouche-toi un petit peu.
Non, c'était dit pourquoi pas. Nous, on aime bien, en fait, on aime bien choquer aussi un peu les gens, notamment déjà par notre répertoire. Et puis sur scène, on est un peu explosif et assez blagueur aussi.
Ouais.
Et aussi, bon, Weeping Widows, Les Veuves et Pleurer, et puis Epitaph, pourquoi pas, quoi.
Commencer une carrière discographique avec Epitaph, ça sent un peu tournée d'adieu, non, comme titre.
Bah, tu sais, il y en a qui disent que mourir, c'est naître.
Oui, alors voilà, on pourrait aller bien loin comme ça. Déjà, un groupe qui s'appelle Weeping Widows. Pourquoi Les Veuves et Pleurer ? Pourquoi ce choix aussi ? Le choix du titre,
là,
d'accord.
Là, on est en train de se renvoyer la balle parce que c'est une question à laquelle on n'aime pas répondre.
Et ben donc ça sera votre...
Non, mais c'est pareil, on fait une... Le blues, c'est une musique qui a une connotation très négative, tu sais, un peu partout où tu vas, tu dis je joue du blues, les gens s'entendent à une musique fondamentalement triste. On n'est pas forcément d'accord avec ça, pour nous c'est une musique très vivante, très joyeuse.
Je vois pas pourquoi.
Et justement, s'appeler les Veuves et Pleurer, c'était un peu un pied de nez.
D'accord. On va, si vous voulez bien, Michael et Joris, on va écouter quelques intros, les intros qui démarrent cet album, notamment Tongue of Blue, puis on va réagir au fur et à mesure. Alors ça, c'est forcément le premier titre que j'ai entendu de vous, en ouvrant, en décellophanant Epitaph. J'ai immédiatement pensé au Mountain Man.
Ah ouais.
J'ai eu raison ou pas ?
Je sais pas, peut-être. En tout cas, on prend ça pour un compliment, en fait.
Avec une autre touche, enfin bon, quelque chose. Mais en même temps, voilà, j'ai retrouvé la complicité déjà entre l'harmoniciste et le guitariste, puisque vous êtes fondamentalement l'un harmoniciste, l'autre guitariste, même si vous jouez d'autres instruments quand même. Voilà, j'ai trouvé tout de suite une cohésion évidente, quoi.
En fait, ça c'est un des premiers, c'est le premier morceau qu'on a composé. Et c'est le morceau qu'on joue tout le temps en concert en premier. En fait, ça nous met tout de suite la pêche et en condition. Et les gens, ça les met tout de suite dans l'ambiance.
T'es en train de me dire que c'est celui que vous avez le plus bossé, en fait.
Quand même, oui.
Ouais.
En tout cas, c'est celui qu'on utilise un peu comme vitrine parce que voilà. C'est un peu accrocheur, assez sympa, quoi.
Et donc c'était l'idée de base de le mettre en plage 1, ça paraissait évident pour vous ?
Ouais, tout à fait, ouais.
D'accord.
Pour nous c'est une évidence, ouais. Après, je sais pas si ça nous correspond complètement au niveau du style, mais pour nous ça nous paraissait évident de mettre ça en premier. Et quand on attaque les concerts, comme je te disais, souvent on commence par ça. Et s'il y a un rappel, on a tendance aussi à le faire parce que il y a une soi-disant danse de la poule qu'on effectue à la fin qui est assez rigolote et où on fait partie des gens. C'est assez rigolo à voir, surtout en live, en fait.
Ouais, et puis en même temps, s'il y a des concerts sur terrasse de café, il y a un petit turnover qui fait que on peut refaire 2 fois le même répertoire finalement, ça c'est pas grave.
Oui, puis, on évite quand même, parce que ce serait la fin pour nous. Plus.
Donc, Michael, tu confirmes par rapport au choix de ce titre-là pour la plage 1, c'était une évidence ?
Ah oui, oui, mais
c'est moi en fait qui te parlais.
Oh putain, non, je voulais dire Joris, pardon, excuse-moi.
J'ai... Oui, oui, ben pareil.
Heureusement que vous n'êtes pas à Big Band, hein. Déjà à deux, j'ai du mal, toi.
Méfie-toi parce qu'en plus on est schizophrène.
Mais moi, tout le monde croit que je suis parano, donc pour te dire.
Ça va alors. Non, mais moi, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a peut-être des morceaux qui sont plus représentatifs de tout ce qu'on peut faire. Il y a un morceau un peu plus loin dans l'album où on a vraiment fait un mélange de plein de styles différents.
Ouais.
Et pour quelqu'un qui serait confronté à notre musique pour la première fois, ça peut être un peu déroutant. Et on trouve que ce morceau-là, pour le coup, est plus directement appréciable pour quelqu'un.
Voilà, voilà, pas trop difficile d'approche, quoi, c'est ça l'idée. Il y a Lera maintenant.
Être de bas étage, la nuit qui tombe les rassure. Ils seront de l'endroit maître ce soir.
Alors là, pour faire ce genre de truc, il faut être deux, il faut être plus de deux. Donc il y a eu du re-recording, non?
Oui, il y a une partie d'harmonica qui a été réenregistrée, mais sur scène, il n'y a juste pas d'harmonica pendant
ouais,
le chant.
Et voilà, ça d'accord, et ça passe.
On a fait un rajout juste pour l'harmo derrière.
D'accord.
Quand je suis pas en solo, en fait, quand je chante, il y a un petit fond d'harmonica qu'on a rajouté. Mais sinon, sur l'album, c'est vrai qu'on a essayé d'éviter le plus possible de faire des re-re, bien que, bon, on en a fait aussi quelques fois, mais on a évité.
Michael, t'arrives pas encore à chanter en jouant de l'harmonica, alors?
Presque, ouais. Presque. Je travaille. Et j'arrive maintenant presque à chanter, jouer de l'harmonica et me doucher en même temps.
D'accord, il faut rester unplugged à ce moment-là, ça sera un peu plus prudent. On écoute le suivant, ça s'appelle Blues des Karchers. On l'avait écouté en entier quand cet album est sorti, je crois que c'était en mai dernier. Voilà, c'est un truc qui fout le bourdon quand même, merde.
Ouais, c'était Joris, c'est bien expliqué. C'était un hommage à un certain président qu'on aimait pas trop.
Vois pas du tout de qui tu parles.
Ouais. Et donc voilà, c'était un peu un hommage à ça, bien qu'on n'aime pas faire des hommages à des présidents ou à des hommes politiques, mais voilà, c'était le sujet était là.
Le blues des Karchers, on a compris de qui il s'agissait effectivement. On va laisser se développer un petit peu les volutes de cette intro.
De morceaux, mais...
Ouais, carrément. Donc Joris, tu disais, tu débutes à la guitare acoustique en fait, c'est ça?
Non. J'ai commencé il y a 4 ans à jouer vraiment de la guitare acoustique.
Ouais. D'accord, quand même, ouais.
Quand tu dis débuter, en fait, ça veut dire ne pas y passer 12 heures par jour, quoi. C'est-à-dire que juste 4 heures par jour, pour lui, c'est débuter, quoi.
Ah, d'accord, ouais.
Actuellement, il dort avec sa guitare. Hein. Franchement, hier, on est rentré de concert. Il a pris sa guitare, il rentre toujours dans la maison, et puis après il est monté dans sa piole chez moi, là, il a une piole, et il est monté avec sa guitare. J'ai dit, mais tu ne les montes pas quand même dans ton lit? Si.
Il y en a quelques-uns qui font ça. Il y a Robin Ford qui fait ça depuis plus 50 ans, je crois. On va écouter Je chante le blues.
En pleine tête, à propos d'hier soir où tu étais là et où tu riais à tout ce que je disais, tu ne voyais même plus ce qui nous était étranger.
Qui est-ce qui crée les paroles dans le répertoire?
Mais là, sur le coup, ce morceau-là, c'est un morceau que j'avais un peu derrière les fagots, que j'avais un peu écrit, mais que Joris a complètement arrangé autour.
Ouais.
Et bah musicalement, il y avait déjà un fil conducteur, mais qu'on a refait totalement. Donc ça, c'est un morceau qui était déjà un peu existant et qui a été très 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 arrangé.
D'accord.
Et après, pour le reste, des morceaux comme Lera, celui qu'on a entendu juste avant le blues du Karcher, là, c'est Joris qui l'a écrit.
Oui, alors, ça fonctionne vraiment à quatre mains, cette composition. Comment vous y prenez? Il y a d'abord des paroles, d'abord une ligne mélodique, une harmonie. Comment vous faites?
Il n'y a pas eu de règle, en fait.
Ouais.
Cet album-là, ça a été... Michael avait des choses qu'il emballait depuis pas mal d'années. Moi, j'en avais quelques-unes aussi. Il y a des choses qu'on a...
Ouais, mais moi, parce que t'es plus jeune, donc forcément, t'en avais
voilà,
moins, c'est ça.
Moins longtemps, mais fais gaffe. Hein.
Ça, c'était pour Michael. Un petit tac, là. Mais Michael, t'es toujours jeune, toi, de toute façon. Là, dans...
Ouais, merci, Marco, toi aussi, alors. Fais pas gaffe.
Et donc, chacun amène sa petite pierre à l'édifice, c'est ça, Joris?
Oui, voilà, ouais, ça s'est fait un peu comme ça, assez naturellement, au final.
On va écouter le titre suivant, on l'avait passé dans Sweet Home Chicago aussi, ça s'appelle, alors, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, Cajo ou Cajo?
Cajo.
Voilà, tu vois, j'avais tout faux, en fait. Avec un cajun, non?
Avec un?
Un cajon.
Non, avec une guitare.
Avec une guitare, mais on aurait dit un cajon. Tu sais qu'il sonne cajon, quoi.
Tu sais que Joris, lui, joue de la guitare acoustique et les percussionnistes, tout en jouant de la guitare, en fait,
d'accord,
il fait de la percussion sur la guitare. C'est assez sympa au niveau du visuel et au niveau du son. Il est assez doué là-dessus pour, comme il se dit, je te disais tout à l'heure, il se dit amateur, enfin pas amateur, mais il est pro, mais il se dit commencer à la guitare acoustique, mais je le trouve déjà bien assez avancé. Et du coup, il pratique très bien la percussion tout en jouant la guitare.
Ouais, non, mais c'est pas terrible parce qu'il se douche pas en même temps, il se douche après.
Oui, mais ça, c'est à cause de la guitare, c'est parce que je veux pas l'abîmer.
Ah, d'accord, c'est ça. Elle est en bois, peut-être. Alors, on va écouter quelques secondes de Cajo. Et j'ai envie de dire, ça sort le sud, non?
L'Argentine, plutôt.
Ah, ben oui, c'est au sud de l'Amérique, alors. Ouais. Alors... Il y a pas mal d'instrus hein, dans le répertoire de Weeping Widows. Est-ce que c'est le cas également sur scène? J'allais dire, quand vous produisez, ça fait autre chose que sur l'album, bien sûr, mais est-ce que vous faites aussi des reprises? Est-ce que vous ventilez par rapport au répertoire de l'album? Comment
oui,
vous faites?
Oui, on a un set live qui est très long.
Ouais.
Et dans lequel il y a, je dirais, un tiers de reprises quand même. Et beaucoup de standards de blues notamment.
Donc vous êtes capable de tenir 2h30, 3h?
4h, 5h,
6h. 4h, 5h,
ouais, 6h, il faut faire durer les solos un peu. Mais...
Ouais. On va écouter le titre suivant, ça s'appelle L'Harmonie. Et là, on redevient classique, quoi. Hein.